Alors, nous voici, nous voilà avec le titre du message ce matin. Mais avant d'aller plus loin dans le message, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier encore une fois, demander à Dieu de disposer nos cœurs ce matin. Je sais qu'on vient souvent à l'Église avec toutes sortes de distractions, avec toutes sortes de préoccupations, mais j'aimerais qu'on puisse prendre ces distractions-là, ces préoccupations-là, les mettre dans une petite boîte, les embarrer juste pour le temps du culte, là, puis on pourra y retourner après. Là. Donc, mettons ces choses de côté-là dans notre esprit pour vraiment se concentrer sur le Seigneur et sur sa parole. Prions. Éternel, merci pour le privilège qu'on a de se rencontrer tous ensemble, Seigneur, de recevoir ta parole. Je prie, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs et que rien ne puisse faire obstacle en nous à la réception de ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu désires nous parler personnellement. Viens nous rencontrer, nous te prions. Et comme Cathy l'a partagé, qu'on puisse s'attendre à toi, Seigneur. Au milieu de nos fardeaux, de nos inquiétudes, qu'on puisse vraiment s'attendre à toi. Donc, viens, Jésus, parle à nos cœurs, nous te prions. Amen. Alors, certains d'entre vous ont été présents parmi nous là, il y a quelques semaines, alors que j'ai débuté une micro-série sur la critique. Donc, à ce moment-là, on avait parlé de certaines choses par rapport à la critique. Aujourd'hui, on va prendre, une perspective différente sur le sujet. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais été critiqués? Tout le monde a déjà été critiqué? Ouais. Y en a-t-il qui ont été critiqués de manière juste? Ouais, OK, quelques-uns. Y en a-t-il qui ont été critiqués de manière injuste? Aussi, oui, OK. Donc, on comprend un peu qu'est-ce que ça veut dire se faire critiquer. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas toujours facile de recevoir la critique. Qu'elle soit justifiée ou injustifiée, on dirait qu'on aime pas ça. Hein? On aime un peu plus recevoir des compliments. Si je vous donnais le choix entre une critique puis un compliment, combien d'entre vous choisiriez la critique? Peut-être intellectuellement, on se dit « oui, je veux grandir, amenez-moi la critique, c'est super ». Mais dans la pratique, quand on la reçoit, des fois, ça nous froisse un peu. Et ce matin, ce dont je veux vous parler de Jésus. Comment Jésus vient nous rencontrer au sein de la critique, comment Jésus se montre un défenseur pour nous face à la critique. Et donc, vous allez comprendre un peu plus là où je m'en vais alors que je vais avancer dans le message. Mais avant, j'aimerais faire un petit résumé du dernier message au cas où vous n'auriez pas été là ou au cas où vous auriez dormi puis que je n'ai pas pu vous réveiller la dernière fois. Donc, on a parlé un petit peu de la recherche de l'image parfaite qui était présente au sein du peuple des Israélites. Hein? Si vous vous souvenez, les Israélites, ils voulaient un leader, ils voulaient un Dieu qui répondrait toujours à leurs attentes. « Donne-moi du pain! Donne-moi à boire! Fais ci pour moi! Pourquoi tu n'as pas fait ça pour moi? » Et on a vu à quel point ils ont critiqué Dieu dans le désert, dans Exode 16, dans Exode 17, combien ils ont critiqué également Moïse. Parce qu'ils voulaient que Dieu réponde à leurs attentes, à leur manière. Ils voulaient aussi que leur leader réponde également à leurs attentes, à leur manière. Et on a vu aussi que les Israélites, ce n'est pas les seuls qui étaient comme ça. Ça fait partie intrinsèquement de la nature humaine. Et nous aussi, on a tendance à vouloir l'image parfaite dans l'autre. C'est ce qui nous amène à critiquer les autres, parfois. Mais on a tendance à vouloir ça de nous-mêmes aussi. On aimerait ça être toujours sur notre plus beau regard. Et c'est ce qui fait que parfois la critique, elle est difficile à recevoir. J'ai mis une petite image ici. Si vous ne savez pas c'est quoi, ben vous êtes probablement un monsieur. C'est du maquillage. Et on utilise dans la société toutes sortes d'artifices, n'est-ce pas, pour se présenter sur notre meilleur jour. Quelqu'un me disait, « Wow, tu sais, quand tes cheveux sont arrangés, tu sais, que tu t'es crémé le visage, t'es vraiment jolie, mais quand tu te réveilles le matin, t'es pas tant jolie, tu sais. » Tes cheveux sont tous dépeignés comme ça. Tout le monde est un peu comme ça, n'est-ce pas? Quand on est tous un peu décoiffés, on n'est pas toujours à notre meilleur. Et c'est la même chose à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? On a tous des défauts, on a tous des choses dans lesquelles on a besoin de grandir. Mais parfois, arriver à se regarder dans le miroir et voir ces choses-là, c'est pas facile. On aimerait bien être métaphoriquement bien coiffé, toujours bien arrangé, disons. Mais c'est pas possible. On a vu également que la bienveillance, plutôt que la critique, hein, ça devrait être notre attitude. Donc, lorsqu'on voit les défauts des autres, leurs péchés, on devrait venir avec eux avec une attitude qui est remplie de bienveillance plutôt qu'une attitude qui est remplie de jugement, une critique qui juge et qui condamne. Et c'est là que ça nous a amené, on a parlé un peu, on a terminé la dernière fois avec un engagement face à la critique. Un petit rappel, il était là notre engagement. Donc, on avait tiré du texte qu'on avait lu, hein, autant dans l'Exode que dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, on avait vu qu'est-ce qui pourrait ressembler pour nous à un engagement face à la critique de quelqu'un d'autre. Donc, quand je vais voir un besoin d'amélioration, de changement chez quelqu'un, on a vu, on va parler avec cette personne-là plutôt qu'avec les autres de ses défauts. On va chercher à aider cette personne-là à devenir meilleure. On ne va pas attaquer son identité avec des mauvaises paroles. On va plutôt s'assurer que ce qu'on dit répond à un besoin réel pour l'autre et que ce n'est pas basé sur une présupposition ou une préférence de notre part. On a parlé également... Oupsies! Désolée, j'ai accroché ici. On a parlé aussi de garder une attitude de compassion et un ton de voix respectueux ou paisible et finalement d'avoir un cœur qui pardonne rapidement ou facilement à l'autre. Donc ça, c'était la conclusion de notre dernier message. Ce matin, on va, comme je vous ai dit, on ne parle pas nécessairement de la critique qu'on donne, mais plutôt de la critique que l'on reçoit. Et donc, il est vrai, hein, que je voudrais toujours être à mon meilleur, mais on ne vit pas dans un monde idéal. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire face à notre propre laideur, qu'elle soit réelle ou perçue par les autres? Comment on arrive à faire face à la critique? Si on ne veut pas recevoir de critique, il ne faudra plus avoir de relation avec le monde extérieur. Mais ce n'est pas vraiment possible, n'est-ce pas? On va au travail, on a des amis, on a de la famille. Comment on arrive à faire face à ça? Quel exemple est-ce que Jésus nous donne? Et ce matin, le message que je vais vous apporter, il ne se veut pas une explication complète de comment est-ce qu'on reçoit la critique, mais plutôt une piste de solution. Donc, en terminant ce matin, vous n'aurez pas tout ce dont vous allez avoir besoin pour faire face à la critique, mais vous allez avoir peut-être un petit morceau de plus au puzzle. Donc, commençons notre lecture. On va lire ce matin dans Luc chapitre 10. Et on va se promener dans trois différents textes du Nouveau Testament. On va voir un petit peu l'histoire de Marie, qui était la sœur de Lazare et de Marthe, et qu'est-ce qui s'est passé pour elle lorsqu'elle a reçu la critique. Donc, lisons la parole de Dieu ensemble. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Elle ne lui sera pas enlevée. Nous voyons un peu plus tard l'histoire, un autre contexte où Jésus et Marie sont présents. Voilà cette fois-ci en Jean 12. Marie prit un demi-litre de parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, celui qui allait le trahir, c'est-à-dire qu'elle est trahir Jésus, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? » Jésus dit alors « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Nous avons également sur cette histoire-là de Marie, hein, qui a versé le parfum aux pieds de Jésus, une autre perspective qui nous est donnée par Luc. Alors, on va lire la même histoire mais dans l'épître, ou plutôt l'évangile de Luc. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à la table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien, qui avait invité Jésus, vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. » Mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. « Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Merci Seigneur pour sa parole envers nous ce matin. Alors, Marie, comme vous le voyez dans ces textes-là, a assez souvent été critiquée, n'est-ce pas? Elle est d'abord écrasée par la critique par sa sœur, qui, devant un public, devant les invités, va peut-être percevoir son désir de s'asseoir au pied de Jésus comme peut-être qu'elle se dit c'est de la lâcheté ou de l'indifférence à son besoin d'être aidée. Hein. Elle est égoïste, elle ne pense pas à moi. Ou peut-être qu'elle se dit, ah, ben c'est pas... Elle ne fait pas son rôle de femme, parce que nous, les femmes, notre rôle, c'est dans la cuisine. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passait dans le cœur de Marthe, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a interprété le geste de Marie de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu comme étant quelque chose de mal. Et elle ne s'est pas gênée pour la critiquer. Marie, nous le voyons dans l'autre texte, elle se retrouve aussi écrasée par la critique par Judas. Encore une fois, qui devant tous les disciples et les autres invités du repas, va critiquer sa générosité envers Jésus. Il va dire, « Hey, franchement, elle ne fait pas preuve de sagesse, elle. Elle aurait dû être généreuse envers les pauvres, elle est trop extravagante, elle ne sait pas gérer les finances. Moi, je saurais comment m'y prendre. » Encore une fois, voilà que Marie, son geste d'amour, sa démonstration de foi envers Christ est critiquée. Et finalement, Marie se retrouve dans ce même repas-là, ou du moins, c'est ce qu'on va assumer ce matin, avec le pharisien qui, en son âme, critique son geste affectueux, le fait qu'elle ait essuyé les cheveux de Jésus. Donc, lui, il lui voit quelque chose de sensuel, quelque chose de moralement perverti. Et puis, il va critiquer son geste. Encore une fois, il la critique. C'est une femme pécheresse. C'est une mauvaise femme. Elle a une mauvaise vie. Comment ça se fait qu'elle touche Jésus comme ça? Marie est écrasée par la critique. Mais voici qu'elle n'est pas seule. Jésus comprend intimement ce que ça veut dire de faire face à la critique. Lui-même a été critiqué, n'est-ce pas? Et voici quelques critiques qu'il aura reçues des chefs religieux. Ils vont lui dire qu'il travaille pour Satan. Sinon, comment il ferait pour chasser des démons? Il doit travailler pour Satan s'il est capable d'exorciser les gens. Ils vont lui dire que c'est un pécheur. C'est sûrement pas une bonne personne parce que lui, il parle puis il s'assoit avec des gens qui ont des problèmes. Il s'assoit avec des prostituées. Lui, il parle avec les prostituées. Il s'assoit avec des gens qui sont des collecteurs d'impôts qui, à l'époque, étaient vus comme des traîtres parce qu'ils travaillaient pour un autre gouvernement. Donc, il s'assoit avec ces gens-là, lui, ça doit être un pécheur, ça doit être un homme de mauvaise vie, ça doit être une mauvaise personne. Et finalement, hein, il se prend pour le Fils de Dieu. Hein, tout ce qu'il nous dit, là, c'est pas vrai, donc c'est un menteur. Et Jésus a fait face lui-même à la critique. C'est pas facile faire face à la critique, n'est-ce pas? Mais voici que Jésus nous donne un commandement. Deux commandements, en fait, qui résument toute la loi. Et ces commandements-là, ce matin, j'aimerais vous suggérer qu'ils peuvent nous aider à évaluer nos propres décisions, nos propres actions. Hein, vous savez, les gens peuvent avoir toutes sortes d'opinions. Jésus, ce qu'il faisait, hein, il ne méritait pas cette critique-là. Ces choses-là ne sont pas vraies par rapport à Jésus. Marie ne méritait pas non plus la critique qu'on lui a donnée. Parfois, nous aussi, on ne mérite pas la critique qu'on reçoit. Parfois, oui, parfois, non. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire la différence? Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Ce matin, j'aimerais vous ramener à ces deux commandements-là qui sont centrales et qui peuvent servir un peu de filtre pour nous aider à y voir un peu plus clair dans notre marche avec Dieu. On va lire ensemble ces deux commandements-là à travers une histoire de Matthieu. Donc, les pharisiens apprirent qu'il, c'est-à-dire Jésus, avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Lorsqu'on parle d'amour, c'est facile d'avoir une incompréhension aussi. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu « Ah, cette personne-là, elle a tellement aimé, hein? C'est sûr que Dieu va l'accepter. Tout ce qui est important, c'est l'amour, tant qu'on s'aime. Hein? » L'amour ici, dans le contexte biblique, il est défini comme plus qu'un sentiment. Lorsqu'on parle ici d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme, ça implique, oui, nos sentiments, mais beaucoup plus que nos sentiments aussi. Hein? Ça implique notre obéissance, ça implique de vouloir faire sa volonté, ça implique de faire le ménage parfois dans nos pensées aussi. Et c'est la même chose lorsqu'on parle d'aimer notre prochain. On ne parle pas juste d'un sentiment, n'est-ce pas? On parle de l'aimer comme nous-mêmes, hein? Alors de lui donner le même respect qu'on se donne à nous, par exemple. On parle de mettre en pratique les commandements de la parole de Dieu qui nous disent, hein, par exemple, en supportez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Tous ces les uns les autres-là qu'on voit dans la Bible, là, et font partie de comment on aime notre prochain. Donc, ce n'est pas quelque chose de flou. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose que la parole de Dieu, elle définit pour nous. Alors, notre définition, on la cherche vraiment dans la parole de Dieu. Mais ces deux commandements-là nous aident à garder notre focus. Est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que j'aime Dieu dans ce que je fais, dans ce que j'ai fait? Est-ce que ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour de mon prochain, selon la définition biblique de ce qu'est l'amour de Dieu? Et de ce qu'est l'amour de mon prochain. Alors, je vous dis ça parce que Jésus nous dira, hein, celui qui m'aime garde mes commandements. En d'autres mots, celui qui m'aime met en pratique mes commandements. Alors, c'est très clair, n'est-ce pas? Donc, c'est de ce genre d'amour-là que Dieu nous appelle. Alors, ces questions-là, pour nous, lorsqu'on fait face à la critique, elles sont toutes simples. Comment est-ce que ma vie ou mes actions, hein, ont été fondées sur l'amour de Dieu et de mon prochain? Est-ce que ce que j'ai fait, là, ce pourquoi on me critique, là, est-ce que je l'ai fait par amour pour Dieu? Est-ce que je l'ai fait par amour pour mon prochain? Ou est-ce que c'était égoïste de ma part? Insouciant peut-être? Est-ce que c'était par revanche? Qu'est-ce qui a motivé mon action? Ça, je pourrais pas vous le dire, hein, mais ça nous demande d'examiner notre cœur, n'est-ce pas? Comment je peux réagir à cette critique-là en aimant mon prochain, en aimant Dieu? L'histoire ne se finit pas avec la critique, évidemment. Ah, la critique, elle demande souvent une réaction parce qu'elle est vécue dans le contexte d'une relation. Et comment est-ce que je laisse Jésus me rassurer devant la critique? Avez-vous remarqué dans les trois textes qu'on a vus comment Jésus est venu à la défense de Marie? Marie a choisi la bonne chose, ça ne lui sera pas enlevé. Jésus est venu directement parler à son cœur pour la rassurer devant cette critique-là. Hein, toi, là, quand je suis entrée, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Il faut savoir que culturellement, c'était une marque d'hospitalité. Les gens marchaient avec des sandales, hein, et c'était très poussiéreux, donc leurs pieds étaient sales quand ils entraient dans une maison. Donc, c'était la bonne chose à faire de leur donner de l'eau pour qu'ils puissent laver leurs pieds. C'était une marque d'hospitalité. Toi, tu ne l'as pas fait, mais elle l'a fait pour moi. Et on voit la même chose dans l'autre exemple, dans l'autre texte, n'est-ce pas? Hein? Où est-ce qu'elle verse du parfum sur les pieds de Jésus par amour? Et Jésus dit, elle le fait par amour, tu vas tout le temps les avoir, les pauvres. Mais moi, je vois son cœur. Comment est-ce que vous invitez Dieu à vous rassurer face à la critique? Comment est-ce que vous invitez Dieu à vous parler? Une chose très simple qu'on peut faire, frères et sœurs, lorsqu'on reçoit une critique, on la prend et on l'amène avec nous dans le lieu secret, dans notre lieu de prière. Seigneur, toi, qu'est-ce que t'en penses? Seigneur, est-ce que ce que j'ai fait, ça a été fait dans l'amour pour toi, dans l'amour pour mon prochain? Montre-moi donc si dans mon cœur, il y avait des mauvaises motivations, si peut-être c'était une mauvaise action ce que j'ai fait. Le psalmiste dira, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Viens checker, comme on dirait en bon québécois, viens voir dans mon cœur, Dieu. Montre-moi. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, « Ben non, mais moi, je le sais, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. » En fait, on ne le sait pas toujours. Des fois, on a besoin de s'arrêter, de prier, demander à Dieu de nous révéler notre propre cœur. C'est facile de se tromper soi-même. Parfois, par mégarde, on fait des choses qu'on regrette ensuite. Que Dieu puisse nous donner, frères et sœurs, ce cœur qui est prêt à se laisser enseigner, qui est prêt à prendre la critique et à l'amener au trône. Et parfois, Dieu dit, « Oui, c'est vrai, voici ce que je veux que tu changes » ou « Voici comment tu devrais t'y prendre pour la suite. » Et parfois, le Seigneur aussi nous dit, « Laisse aller. Cette critique-là, elle n'est pas pour toi. » Ça, c'est la perception de cette personne-là, mais ce n'est pas représentatif de tes motivations. Donc, on puisse l'amener à Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse aussi quelque chose ensemble. Vous allez voir, c'est quelque chose d'un petit peu inhabituel. Je vais nous faire jouer une chanson. Et avant de la faire jouer, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Ça va être une opportunité pour vous de laisser le Seigneur vous parler. Donc, ce chant-là, il est intitulé « Ne t'inquiète pas, Marie ». La chanteuse, c'est Sonia Lancin, mais c'est un texte qui est écrit de Thérèse de Lisieux. Donc, Thérèse de Lisieux, c'était une religieuse, et l'une des choses qui la passionnait, c'était l'amour de Dieu. Et puis, dans ce texte-là, qui est en fait à l'origine un poème, donc ce n'était pas un chant, c'était à l'origine un poème, elle imagine comment Dieu ou comment Jésus parle à Marie. Pour la rassurer. Et ce matin, j'aimerais que vous l'entendiez pour vous-même, ce chant-là. Alors, peut-être qu'au lieu de Marie, vous pourriez imaginer Cathy, si vous vous appelez Cathy, ou Amélie, ou la Yashi à quelqu'un d'autre. Donc, mettez votre nom à la place et écoutez Jésus vous rassurer dans la critique peut-être que vous vivez ou que vous avez vécu. Maintenant, comme je vous dis, c'est un poème. Ce n'est pas un poème qui date du 21e siècle. Donc, vous allez voir des expressions dans ce poème-là qui vous sont peut-être un peu moins familières. C'est des images aussi. Donc voilà. Vivons-le ensemble, entendons ce chant-là et invitons Jésus à nous rassurer. Donc, je vais prier, puis ensuite, on va pouvoir entendre le chant. Vous allez voir les paroles aussi à l'écran qui vont vous aider à suivre. Éternel mon Dieu, je voudrais te remercier ce matin. Oui, Seigneur, on te dit merci parce que tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime profondément et qui prend notre défense face à la critique. Tu viens, Seigneur, rassurer nos cœurs devant la critique injuste, mais tu viens aussi réorienter nos cœurs lorsqu'on s'est égaré, Seigneur, et que la critique veut nous ramener à toi. Parce qu'on a manqué d'amour envers toi, on n'a pas vécu tes commandements, on n'a pas obéi à ta parole, Seigneur, ou on a tout simplement manqué d'amour envers un frère ou une sœur. Seigneur, viens nous transformer. Viens nous transformer et qu'au milieu de notre souffrance, lorsqu'on vit la critique ou de notre inconfort lorsqu'on la reçoit, que nous puissions, Seigneur, humblement t'inviter. T'inviter à nous aider à faire le ménage. T'inviter à nous aider à faire la différence. Viens, Jésus, ce matin, et rencontre-nous dans le nom puissant, dans ton nom puissant, Père. Amen. Alors.
Ne t'inquiète pas, Marie, de l'ouvrage de chaque jour, car ton travail en cette vie doit être uniquement l'amour. Ne t'inquiète pas, Marie, de l'ouvrage de chaque jour, car ton travail en cette vie doit être uniquement l'amour.
Alors, ce matin, puissions-nous, frères et sœurs, ne pas vivre dans l'inquiétude? L'inquiétude peut-être de ne pas en faire assez pour le Seigneur ou de ne pas être à la hauteur. L'inquiétude peut-être de ce que les gens en diront ou en penseront. Puissions-nous garder notre focus sur le fait que notre travail en cette vie, hein, il est assez simple. C'est, comme Jésus nous l'a dit, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de l'aimer lui de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et qu'au milieu de nos difficultés, ces peines-là qui nous accablent, que nous puissions chercher à réjouir le cœur de Dieu par notre fidélité, que nous puissions même arriver à un endroit dans nos cœurs où nous le remercions pour ces choses-là, hein, ces défauts-là qui sont peut-être comme des chaînes, hein, qui restent attachées à nous pour un certain temps. Ces difficultés-là dans nos vies, hein, parce que parfois la critique, elle nous rencontre au milieu de bien d'autres difficultés. Que nous puissions le remercier même pour ces limitations-là, en gardant ce doux refrain-là en nos cœurs qui nous dit de ne pas s'inquiéter, de seulement se focusser sur notre travail, ce travail-là simple que Dieu nous donne, de l'aimer lui et d'aimer notre prochain. Alors, on va remercier Dieu. Éternel mon Dieu, merci. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage, qui nous dirige. Merci Seigneur parce que toi-même tu as connu la critique. Tu l'as connue et tu l'as reçue Seigneur. Et ça ne t'a pas limité dans ton amour envers nous. Tu es mort sur la croix et pas seulement pour ceux qui te donnaient des compliments ou qui te suivaient. Tu es mort aussi pour ceux qui te critiquaient. Puissions-nous aussi, Seigneur, être fidèles dans notre amour, en continuant à aimer des gens qui nous critiquent parfois injustement, en continuant à t'aimer, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus que nous prions. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges pour un dernier chant ce matin.